marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Un coup franc, ça vous dit quelque chose?
Ça m'évoque une chose franche, quelqu'un qui vous dit les choses franchement.
Il y a combien de joueurs dans une équipe?
11, à peu près.
10.
Je sais pas, une douzaine.
Les joueurs de l'équipe de France de foot.
Sont des joueurs avec qualité, sont des joueurs pour les matchs décisifs, pour les matchs décisifs dans la Ligue des Champions, sont des joueurs pour le meilleur niveau. Et c'est pas possible qu'on perde tous les joueurs qui sont capables de combattre, c'est pas comme ça. Et on n'a pas un deuxième Eddy, on n'a pas un deuxième Neymar, c'est pas possible.
L'entraîneur du PSG, Tuchel, est bien embarrassé, nous aussi un peu pour le comprendre. Il dit que pour le match de Ligue des Champions de ce soir, contre Manchester United, il lui manque plusieurs joueurs clés dans Neymar. Et dit-il, on ne peut pas faire de bon football sans des virtuoses. Sauf que les blessures sont là, jointes à d'autres impondérables, elles expliquent que les carrières des sportifs sont rarement linéaires. Ces carrières sont, dans bien des cas, on le sait, de plus en plus internationales. Tuchel publie un livre où il soutient que c'est le foot qui, je cite, « fait grandir Paris aux dimensions de l'univers ». Il paraît que Bondy, en dépit de sa forêt, était peu réputé avant le surgissement de Mbappé. Maintenant, la ville serait connue dans le monde entier. Manchester United, de son côté, appartient à un homme d'affaires américain qui est ravi de voir son club produire 666 millions de revenus par an. Il pourrait, affirme-t-il, ne remporter aucun trophée d'ici 10 ans. Il gagnerait encore de l'argent. Tout de même, ce monsieur attend lui aussi beaucoup des joueurs. De Pogba, par exemple, enfant d'une autre ville de banlieue française, Roissy. La confrontation entre Mbappé et Pogba est d'ailleurs très attendue ce 12 février. Elle est d'autant plus attendue que les deux étoiles appartiennent à la même constellation, l'équipe de France. L'histoire de celle-ci est tissée de situations inattendues de ce genre. Commencée en 1904, ayant de cette date à 2012 accueilli quelques 861 joueurs, elle est maintenant assez longue pour qu'au-delà des seuls motifs d'étonnement, on puisse en tirer quelques leçons plus générales.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour François Darrocha Carnero. Vous êtes un grand spécialiste du football, mais avant que je ne vous tisse cette réputation, il faut dire que vous êtes un pionnier d'interclasse avec France Inter.
En effet, Jean Lebrun.
Dans votre lycée à Roubaix.
Oui, tout à fait.
Grande terre de football.
Une grande terre de football, c'est certainement le premier grand club français, le Racing Club de Roubaix, bien avant le PSG.
Et le nord de la France, avec l'Île-de-France, ont joué un grand rôle dans le recrutement des joueurs de l'équipe de France. Alors, à ceux qui vont s'étonner, comme Bruno Duvic, pourquoi fait-on une émission sur l'histoire du foot? Ça fait quand même un moment que l'histoire du foot est légitimée, depuis Alfred Vall et bien d'autres pionniers. Et vous, alors, on va faire savant, hein. Vous entamez une prosopographie dans une thèse de doctorat que vous venez de soutenir sur les joueurs de l'équipe de France. Prosopographie, ça vous donne tout de suite une certaine allure.
Oui.
Ça veut dire quoi?
Alors, une prosopographie, c'est une sorte de biographie collective qui permet de retracer les caractéristiques des joueurs, des personnes étudiées au sein d'un groupe. Donc, on fait un portrait type avec des nuances, bien sûr, de ces joueurs de l'équipe de France
et
de football.
Et des fiches biographiques.
Et des fiches biographiques reposant donc sur l'étude des 861 joueurs, puisque je m'arrête à 2012, on en serait à un peu plus de 900 aujourd'hui.
Mais moi je suis habitué, en histoire antique ou médiévale, à voir, je sais pas, la prosopographie des notables chrétiens de l'Antiquité tardive, ou bien des chevaliers de l'ordre équestre à Rome, des élites quoi.
Oui,
mais c'est pas une élite, l'équipe de France.
Alors, ce n'est pas une élite, le mot latin, c'est electus, c'est être élu, être sélectionné. Donc l'équipe de France est bien, en effet, une élite sportive. Maintenant, elle est polymorphe. Elle est, en effet, élite sportive, parfois élite de représentation. Enfin, on va aller ensuite dans une discussion très sociologique sur la nature même de l'élite.
Ah ben, il faut faire de la sociologie parce que c'est un fait social total. Le football qui concerne tout le monde, y compris ceux qui ne se sentent pas concernés. élite sélection. Il y a une équipe de France à partir du moment où il y a une fédération, à partir du moment où il y a un sélectionneur. 1904, qu'est-ce que c'est ?
Il y a une équipe de France avant même l'existence de la fédération française. Il y a des fédérations au début du XXe siècle, l'USFSA en particulier, puisque c'est l'USFSA qui crée la première équipe de France, mais c'est aussi beaucoup lié à la volonté médiatique. C'est le journal Loto qui directement... incite à la création de cette équipe représentative. Jusqu'alors, il y avait des équipes de clubs ou quelques regroupements locaux qui permettaient de représenter l'équipe nationale, de faire office d'équipe nationale, mais la véritable première équipe nationale est reconnue comme telle, c'est en 1904.
Et avant la Première Guerre mondiale et au-delà, dans le début de l'après-guerre, ce sont parfois des fils de patrons, dites-vous, souvent des fils de la boutique, de l'artisanat, du commerce, très rarement des enfants des classes populaires rurales, et Dieu sait si elles sont importantes à l'époque. Sociologie des premières équipes de France.
Oui, en fait, il y a des sociologies différenciées en fonction du lieu d'où sont originaires les joueurs. Ce sont très souvent des enfants du patronat textile lorsque ce sont des joueurs du Nord. Plus souvent des joueurs du commerce, de la boutique, comme vous l'avez dit, lorsque ce sont des Parisiens. Or, ce sont là les deux grands foyers de recrutement. Les autres régions ont très peu de place, finalement. Il y a, de façon anecdotique, des Normands, des Bretons, un joueur du Sud, Victor Sergent, mais c'est vraiment anecdotique.
Premier rendez-vous internationaux, les Jeux Olympiques de 1908, une raclée, les Jeux Olympiques de 1924 et, à l'initiative de la France, de Jules Rimet, la première Coupe du Monde qui se tient en Uruguay sur le bateau pendant 3 semaines. Vogue, l'équipe de France, il y a 4 équipes européennes, je crois, qui sont représentées dans cette première Coupe du Monde. Dans l'équipe de France, il y a plutôt des gens de la haute. Par exemple, il y a des joueurs étudiants. Comme on n'a pas l'idée d'envoyer des journalistes, c'est eux qui vont faire les articles.
Oui, c'est Augustin Chantrel et Marcel Pinel qui font le récit de ce voyage et qui finalement insistent davantage sur les conditions même du voyage que sur l'aspect sportif.
Premier but de la première Coupe du Monde en Uruguay, marqué par Lucien Laurent. L'événement prendra son relief plus tard et on pensera à l'interviewer jusqu'à ses 96 ans accomplis.
Je suis un modeste, mais enfin quand même, j'ai fait quand même ma route.
Le maillot bleu, il était bleu à l'époque quand
ah
on
oui.
le portait.
Ouais, ouais, bleu avec un coq.
Ouais. C'est quoi quand on a le maillot bleu sur les épaules?
Ben, ça fait quand même plaisir. Remarquez, j'ai pas eu le maximum de collection. J'aurais dû avoir, mais enfin, j'en ai quand même fait 13, 12. Ouais. Puis on est bon footballeur, on l'est pas. Hein. Vous savez, les gens qui disent que faut s'entraîner, faut faire ceci, faut cela. Mais si on n'a pas un peu le, je sais pas, la vision du jeu ou l'esprit collectif qu'il faut respecter dans le jeu, c'est mauvais, quoi. Il y a beaucoup moins d'anti-jeu que maintenant. J'aime pas les coups de pied, les plongées dans les jambes, les accrochages, j'aime pas ça. Moi, j'aime le football pur.
Sur France 3, Lucien Laurent, 3/4 siècle après l'événement. Lui, il est ouvrier footballeur ou footballeur ouvrier, je ne sais pas comment il faut dire.
On peut dire footballeur ouvrier puisque le côté ouvrier est finalement un prétexte.
Il est chez Peugeot.
Il est chez Peugeot, il est recruté en 1930 par Sochaux, qui est un club professionnel, le premier club professionnel avant même que le professionnalisme soit reconnu officiellement en France.
Les années 30, ce sont les années de la professionnalisation, les premières années de transfert, par
exemple.
Disons
que ce sont plutôt les années de l'adoption du professionnalisme. La professionnalisation dans ce sens où on construit véritablement un métier, ça viendra plus tard.
Quelqu'un qui va devenir beaucoup plus tard sélectionneur de l'équipe de France, qui s'appelle Georges Verriès, dans ses années 30, a des ennuis avec son papa qui est boucher et qui n'aime pas qu'il joue au foot et pas assez à l'abattoir.
Tout à fait, oui, oui.
Puis un nommé Villaplanque, lui, qui a un drôle de métier.
Alors,
lui.
Alexandre Villaplane, lui...
Villaplane, pardon.
Villaplane est donc le capitaine de l'équipe de France pendant cette première Coupe du Monde 1930. Et il tourne très mal, puisqu'il entre dans le petit banditisme d'abord, avant de tomber dans un moyen, puis un grand banditisme, et finalement de finir dans la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'être jugé, exécuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Il n'est nullement représentatif des années... 1940. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on prenne à sa place l'échéance de 1938. Coupe du Monde 1930, 1934 en Italie et 1938 à Paris. Ça n'intéresse pas beaucoup le gouvernement.
Non, ce n'est pas la priorité, d'autant que le gouvernement est en train de dépérir. C'est le Front populaire finissant.
Il n'aime pas Léo Lagrange, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Ces stades de 50 000 personnes où on regarde 22 personnes qui jouent. Il préfère les piscines, les pistes d'athlétisme.
Léo Lagrange et plus généralement le Front populaire ne sont pas adeptes du sport spectacle et préfèrent le sport populaire, le sport pratiqué.
Mais à Colombes, il y a quand même 50 000 personnes en 1938.
C'est un succès populaire.
Nous sommes peu après l'Anschluss, c'est pour ça que l'équipe d'Allemagne regroupe des Allemands et des Autrichiens. Alors voici un match clé, à l'issue duquel on va entrevoir quelques noms de l'équipe de France de 1938.
La Fédération Internationale de Football, qui représente 50 nations, sont réunies. La Coupe du Monde, expression vivante de cette Fédération Internationale, prouve l'universalité du plus populaire des sports, le football. Le premier match de la Coupe du Monde oppose au Parc des Princes l'Allemagne et la Suisse. L'Allemagne est favorite, mais la Suisse, qui avait déjà montré ses vertus morales aux Jeux Olympiques de 1924, compte de nombreux partisans. Voici l'équipe suisse. Elle comprend dans ses rangs des joueurs connus tels que Abeglen et Minelli. L'équipe d'Allemagne est formée pour la première fois de joueurs allemands et autrichiens. L'un des grands intérêts de ce match est de savoir comment s'opérera la fusion. L'acteur René Lefebvre va conter à ses milliers d'auditeurs les péripéties du match qui vient de commencer. Les Allemands ont un maillot blanc, les Suisses un maillot gris. Les Allemands attaquent dès le début et tous les spectateurs ont l'impression que l'Allemagne, conformément au pronostic, se qualifiera. Les Allemands jouent un bon football, mais la fusion des styles autrichien et allemand n'est pas parfaite. Les Suisses, en difficulté, font appel à leur courage pour endiguer les assauts de leurs adversaires. Les joueurs de l'équipe de France qui demain seront acteurs assistent au match. Voici Gaston Barrault, le sélectionneur unique de l'équipe de France. Matler, capitaine de l'équipe, le seul joueur français avec Delfour, ayant participé aux trois coupes. Et Aston, l'un des préférés du public.
L'un des préférés du public qui s'est pressé autour de l'hôtel Chic à côté de Chantilly où a eu lieu la préparation. Ils sont déjà assez connus.
Oui, et puis la presse relaie cette préparation, relaie ce regroupement avant l'heure avec les parties de pêche des uns, les parties de tennis des autres.
Et les parties chez Odette à Pigalle des troisièmes.
Oui.
Parce que vous dites l'entraîneur, est-ce qu'il est l'entraîneur d'une équipe de foot ou est-ce qu'il est le surveillant d'une équipe de jeunes?
Alors c'est avant tout le surveillant d'une équipe de jeunes. Gaston Barrault d'ailleurs n'est pas entraîneur à ce moment-là, c'est le sélectionneur. C'est un autre ancien international qui tient le rôle d'entraîneur. En effet, c'est plus l'accompagnateur d'une équipe de jeunes. On est dans un cadre quasi militaire ou paramilitaire. Hein. C'est un surveillant général qui surveille en effet. C'est cette génération ou cette cohorte représentée à la fois de trentenaires, à l'intérieur de laquelle on trouve des trentenaires et à l'intérieur de laquelle on trouve aussi des plus jeunes.
Comme le dit l'Action française, l'organe de l'extrême droite, très suspicieuse, les joueurs nés français dans ces équipes d'avant-guerre, nés français en métropole, seraient minoritaires ?
Ils ne sont pas spécialement minoritaires, mais c'est vrai qu'il y a quelques grands joueurs français du moment qui ne sont pas nés français, et je pense en particulier à Gusti Yardan, Auguste Jordan, qui est autrichien, qui lui devance l'Anschluss et n'est pas venu en France pour des raisons politiques, mais uniquement pour des raisons économiques, parce qu'il pouvait vivre du football à partir de l'ouverture du championnat professionnel. Et comme les clubs étaient limités en nombre de joueurs étrangers, ils ont incité Gusti Yardan à adopter la nationalité française.
Le joueur noir de l'équipe, une vedette, Raoul Diagne, lui, c'est un fils de Français, puisque son père était député et ministre au Sénégal.
Oui.
Enfin, du représentant du Sénégal dans le gouvernement et le Parlement français.
C'est le fils de Blaise Diagne.
Ouais. Et Larbi Ben Barek.
Ah, la perle noire, Larbi Ben Barek. C'est un joueur qui inspire une forme de mythologie médiatique à ce moment-là, à cette période-là, parce que il introduit un jeu qui a l'air assez flamboyant. Pelé dira de lui d'ailleurs que si moi je suis le roi du football, l'Arbi est le dieu du football.
Les années 1940 ne lui seront pas favorables. Elles verront l'amateurisme revenir à la mode sous le régime du maréchal Pétain. On va aller direct, si vous le voulez bien, aux années d'après-guerre, où vous voyez une bascule sociologique.
Oui. C'est davantage un milieu populaire à partir de l'après-guerre.
J'aime bien votre formule dans votre thèse. Les classes populaires confisquent l'équipe de France de foot. Faut bien qu'elles confisquent quelque chose.
Mais à partir du moment où les milieux de l'élite politique n'ont pas d'intérêt immédiat à participer à la professionnalisation du football, un football professionnel, en effet, ce sont les classes populaires qui en tirent profit et qui confisquent donc ce football d'élite, ce football de haut niveau à leur profit.
Grand moment dès la fin des années 1950, grâce au vivier qu'a constitué pendant les années 1950 le stade de Reims, avec des personnalités qui sont d'origine étrangère lointaine. Piantoni, ses grands-parents étaient dans les mines de fer des Devindel à Briey.
Oui, tout à fait. Oui, ce sont des équipes constituées de descendants de Polonais, de descendants d'Italiens. Polonais, Coppa, en effet.
Et Juste Fontaine, lui ?
Juste Fontaine, lui, est un pied noir marocain.
Et il a commencé sa carrière au sud de la France,
à Nice. Au sud de la France, à Nice, tout à fait.
Et une fois arrivé à Reims, il va finir par être sélectionné dans l'équipe de France. L'équipe de France qui participe à la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Dès le premier match France-Paraguay, il marque 3 buts. Et au total, alors que la France va finir 3e, lui, il aura marqué 13 buts. Juste Fontaine au micro de David Arthur à Voix Nue France Culture.
Là, je porte le numéro 17, mais c'est en Coupe du Monde.
Donc Piantini joue le numéro 20.
Voilà.
Coppa joue le numéro 18 et vous 17.
Voilà. Et voilà, et tout ça, ça arrive parce que, on nous a donné que 3 maillots. On joue 6 matchs avec les 3 mêmes maillots. Il faut enlever la broderie des premiers matchs, les laver. C'est de l'amateurisme complet.
Il n'y a pas eu de prime pour les 13 buts ?
Non, il n'y avait pas de souliers d'or, il n'y avait rien à l'époque. Ça se termine là pour nous, quoi. On va à une espèce de foire où il y a une scène, là, on nous fait monter, là, une espèce de foire en Suède, à Göteborg, je m'en souviens. Et là, je ne sais pas ce qu'il leur prend aux gens, ils nous demandent une chanson. Et on chante les couilles de mon grand-père, et eux, ils croient qu'on chante la Marseillaise, alors on est applaudi à tout rompre.
Vas-y Justo, vas-y Fontaine. Et comme tu ne remâches jamais à la peine, l'équipe de Reims, l'équipe de France doit gagner. Vas-y Justo, vas-y Fontaine. Qu'on soit mené ou dominé, tu dois marquer. Comme en Suède, un but qui fait crouler la reine, et dont toi seul as le secret pour le signer. Vas-y Justo, vas-y Fontaine. Car c'est toi le porte-drapeau des canonniers.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les joueurs de l'équipe de France de foot, nous sommes maintenant en 1958 et toujours en compagnie de François Darrocha Carlero qui vient de consacrer une thèse à ce sujet qui appartient à un laboratoire bien nommé, le Sherpa, qui à l'université d'Artois travaille sur le sport en lien avec toutes les sciences humaines. Vous ne connaissiez pas le disque de Gilles Bernard ?
Non, non.
Extrait de la collection de Martin Penet. Justo, c'est le surnom qui était donné par sa mère, Juste Fontaine, et sous lequel il était connu de la Terre entière. Il était connu de la Terre entière, où il dit en même temps, vous savez, c'était juste une époque d'amateurisme.
Oui, il exagère probablement un petit peu. C'est un entre-deux. C'est sûr que ce n'est pas le même professionnalisme qu'aujourd'hui. Les 3 maillots, on peut en effet croire Juste Fontaine lorsqu'il raconte cette anecdote.
On lui fournit pas un maillot pour chaque match, il faut qu'il le lave. Ouais.
Mais maintenant, c'est quand même une équipe qui est regroupée, qui bénéficie de soutien, et en particulier de soutien de la presse, puisqu'il y a une campagne de presse qui est menée en 1958 pour encourager l'équipe de France. Il ne faut pas oublier que cette équipe de France sort d'un contexte très difficile. D'une part, en 1954, elle avait complètement échoué sa compétition, la Coupe du Monde en Suisse. Et puis, elle perd son attaquant principal, ou en tout cas celui qui fait office, a priori, d'attaquant, René Bliard, qui finalement laisse la place à Jules Fontaine, même si Paul Nicolas semble avoir fait son choix avant la blessure de Bliard. Et puis surtout, l'équipe de France perd un défenseur, Mustapha Zitouni, qui rejoint l'équipe du FLN en avril 1958.
Alors, Jules Fontaine conteste le fait qu'il a pris la place de manière injuste parce qu'il était blessé de Bliard, mais il dit qu'il a bénéficié de l'échappée nationaliste des joueurs qui... avant la Coupe du Monde, en avril 58, on rejoint le FLN. C'est un événement important, ça.
Oui. Il en bénéficie parce que ça permet de faire finalement une sorte d'écran de fumée devant l'équipe de France.
Alors, vous étudiez la sortie aussi dans votre étude prosopographique des joueurs de l'équipe de France. La sortie est souvent le fait de blessures. Très important, les blessures. Jules Fontaine a été victime de plusieurs blessures.
Oui, pendant 2 ans, il met fin à sa carrière pendant une longue agonie. Il est blessé une première fois en 1960. Il revient blessé une deuxième fois en 1961. Il revient blessé une troisième fois lors d'un match contre Monaco en 1962. Et là, en 1962, pendant l'été, il apprend que son club ne veut plus de lui, que le stade de Reims ne veut plus de lui. Mais il y a pire que lui. Il y a quelqu'un comme Edmond Barraf, pour qui l'agonie dure plusieurs années, 7-8 ans, au point qu'il intitule son autobiographie « Comeback ».
Mais vous me faites rire avec le mot « agonie », ils sont toujours vivants pour la plupart d'entre eux. Et Jules Fontaine va se reconvertir. Vous étudiez aussi beaucoup les reconversions. Celle de Jules Fontaine paraît relativement classique, même si elle est barrée d'un certain nombre de difficultés.
Monsieur Jean Doumain, qui est président de Toulouse, le milliardaire communiste...
Enfin, du Toulouse FC. Il est président du Toulouse FC.
Oui. Il m'impose, en fait. Et quand je dis qu'il m'impose, c'est pas usurpé, parce que quand il me nomme entraîneur de l'équipe de France, je suis président du syndicat des joueurs. Donc, tous les dirigeants sont contre moi, parce que je suis un trublion. Je suis major de ma promotion entraîneur, mais j'ai pas 35 ans pour... J'ai pas les 35 ans requis à l'époque pour pouvoir entraîner. Donc, je ne suis pas admis par les dirigeants avec qui je suis en règlement de compte. Et puis, pour les entraîneurs, j'ai pas l'âge. Donc, et surtout, j'impose de jouer la défense en ligne. Alors là, on m'a brûlé les ailes parce que je suis resté que 2 matchs entraîneur de l'équipe de France.
2 matchs à l'équipe de France, mais enfin, il va entraîner d'autres équipes, il va finir entraîneur de l'équipe du Maroc. Et puis reconverti aussi dans le commerce de sport, ce qui arrive assez souvent pour les footballeurs. Plus souvent que le bar-tabac.
Plus souvent que le bar-tabac, ça dépend aussi des périodes. Le mythe du bar-tabac, il perdure assez longtemps, au moins jusqu'aux années 60. On trouve pas mal d'anciens sélectionnés, d'anciens internationaux qui ont ce bar-tabac, parfois en même temps d'ailleurs que leur carrière sportive. Jean Barat, par exemple.
Les années 60, le fait qui a été évoqué par Fontaine date de 67, sont des années de traversée du désert. Comme disait le général de Gaulle, il faut que je fasse tout. On le voyait à la une du Figaro en survêtement pour remplacer les sportifs défaillants, même en des Jeux Olympiques. Mais disons que ces années 60, 70 vont préparer le rajeunissement, multiplier les centres de formation et on va arriver, ça va être notre dernière étape, à l'équipe de France glorieuse de 1982 qui a un certain style, un certain jeu inimitable, enfin qui lui permet d'être reconnu partout, François Darrochin-Carnero.
Il y a surtout un joueur moteur dans cette équipe, c'est Michel Platini, autour duquel Michel Hidalgo choisit de construire son équipe dès 1976, dès son arrivée à la tête de la sélection. Et il se trouve qu'en 1982, Michel Platini, en plein milieu de la Coupe du Monde, est blessé. Donc Michel Hidalgo est obligé de faire confiance à d'autres meneurs de jeu. Il en met 3 en même temps sur le terrain, c'est Alain Giresse, Jean Tigana et Bernard Gengini. Et il se trouve que ces 3 joueurs évoluent très bien ensemble, remettant en cause la présence de Michel Platini au sein de l'équipe. Et finalement, Michel Hidalgo, ne pouvant pas se passer de ce grand joueur qu'est Michel Platini, choisit de créer une formule magique, un carré, avec ses 4 milieux de terrain, ses 4 numéros 10 simultanément.
Alors on va entendre le nom de ces 4, à quoi seront adjoints les noms de Trésor, de Bossy, dans un match dont chaque Français, paraît-il, se souvient de l'endroit où il l'a vu, où il l'a entendu. Nous sommes en juillet 1982 à Séville, France-Allemagne.
Et Platini l'envoie jusqu'à Toni Schumacher, le gardien de but de Cologne. qui a un vilain geste vers les supporters français. Un petit peu énervé, Schumacher. Trésor. Tigana. Girès. Rip de vitesse par Dremler. Oui, bien joué, Bossis. Oh, extraordinaire, Bossis.
Ah oui, je ne sais pas.
J'ai rarement vu un garçon faire un match comme celui qu'il fait ce soir. Bonne balle de Platini pour Battiston.
À côté.
Aïe, 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 elle c'est pas côté. Vrai. C'est pas vrai.
Encore une fois, Schumacher.
Il n'a pas fait le voyage.
Non, regardez, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez.
Le geste de Harald Schumacher a été un geste tout à fait inadmissible.
Regardez le surtout. Oh, c'est un
récidiviste.
Regardez,
regardez, regardez
le
sur
premier.
Oui.
Et le Schumacher sur la main. Dans la gueule. Si vous continuez de refuser ma une petite libellule, je voudrais tant vous prendre dans mes filets pour vous arracher les ailes. Und. Si je vous frappe, il n'y aura pas de traces, car je suis un bon gardien avec moi, ça ne marque pas. Colossale rigolade. Maintenant arrête de rigoler maintenant, sinon je donne dans ta figure. Oh, une paire de calottes, zwei Klage und drei Tornion.
Alors après cette fameuse 57e minute, Patrick Sébastien a fait enfiler à Schumacher la tenue du SS, mais le match, il a été intense, après, et peut-être jamais la liberté de jeu, a-t-on dit, l'équipe de France n'a été aussi grande qu'après cet incident. Le match s'est terminé par une défaite au tir au but et une grande déception. Vous proposez, employant des mots savants, François d'Arracha-Carnero, de poser les prolégomènes d'une analyse historienne du match, et Séville le permettrait.
Ah oui, Séville, c'est une tragédie grecque. On a à la fois le côté sportif avec les rebondissements, avec la certitude que l'équipe de France va gagner puisqu'elle mène 3-1 et finalement elle est rejointe à 3-3, puis les tirs au but. Il y a ce côté dramatique qui joue avec la mort, avec Battiston qui est blessé, inanimé, qui sort sans savoir exactement ce qu'il advient de lui. Donc c'est un match très complet, mais...
Dans les tragédies grecques, à un moment, vous parlez de vanité. Vous allez au Musée du Temps, à Besançon, il y a un tableau qui représente un enfant qui joue avec des bulles, pendant qu'à ses pieds, il y a un crâne et des tibias.
Oui.
Et ça vous fait penser à l'analyse d'un match.
Oui, parce qu'il faut réfléchir au temps du match particulier pour l'historien. C'est un temps que l'historien n'a pas eu encore l'occasion de saisir comme étant un temps historique, que les journalistes sportifs saisissent relativement bien. Mais notre méthode historienne doit se confronter à ce type de temporalité. Et en effet, il va falloir ouvrir ce dossier-là.
Mais alors après Séville ou un match de ce genre, vous êtes aussi triste que l'enfant dont la bulle est percée.
Oh non, certainement pire.
Certainement pire. Oh, oui, mais vous savez, après Séville 1982, il y a eu 1984. Et les grands succès de 84 n'auraient pas été possibles sans la défaite inspirée de 1982. Alors à bientôt, j'espère, le plaisir de lire une édition resserrée de votre thèse, François d'Arracha-Carnero. Merci à Franck Nivard qui s'est converti au football grâce à vous et a préparé cette émission avec Nolwenn Pocri. À la technique Jérémy Guillon et la réalisation, elle en est fière, c'est Audrey Ripouille.